7-9.
Lundi 11 avril, bienvenue dans cette édition spéciale du 7-9 au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle. Vous le savez, c'est donc Emmanuel Macron qui est arrivé en tête hier soir, suivi de Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon. À eux trois, ils totalisent plus de 70% des voix et achèvent les anciens partis de gouvernement. La gauche est désormais la droite républicaine. Voilà Léa, très gros traits, ce paysage politique en pleine recomposition.
Oui, avec quelle perspective pour le second tour? Quelles sont les dynamiques, les réserves de voix d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen? Comment se pose aussi la question des législatives? Car c'est l'autre bataille qui commence aussi ce matin. Jusqu'à 9h, les représentants de toutes les grandes familles politiques vont se succéder à notre micro. Et Brice Teinturier d'Ipsos viendra donc en fin d'émission tirer les enseignements de ce premier tour.
Voilà pour le programme jusqu'à 9h. Bonjour Anaïs Feugard.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Les autres titres ce matin.
Vous en parliez, le crash historique des deux partis de gouvernement PS et LR. Les écolos ne dépassent pas les 5%. Nous serons avec les militants désabusés et un parti désormais désargenté. La question du report des voix appelle unanime à gauche pour faire barrage à l'extrême droite. Les républicains sont divisés. Et puis dans ce journal, nous serons aussi en Ukraine, à Tcherniv, ville stratégique de la bataille de Kiev, où l'on constate que les écoles ont été visées.
France Inter.
Qu'allait donc donner cette campagne présidentielle atypique? Fracturation à gauche, campagne atone, concurrence à l'extrême droite. Quelques grands enseignements ce matin au lendemain du premier tour. Trois candidats trustent 73% des voix, presque les trois quarts des suffrages. Les neuf autres prétendants se partagent le reste. Un net vainqueur, Emmanuel Macron, qui consolide son avance de 2017. L'extrême droite pour la troisième fois au second tour. Jean-Luc Mélenchon, qui est bien le troisième homme ou le troisième mouvement politique ayant largement rallié les votes de gauche, et des partis structurants de la vie politique française de la Ve République qui avaient fourni les présidents français depuis le général de Gaulle, en passe de disparaître. Les Républicains, le Parti Socialiste à moins de 5% des voix. On vient en détail sur tous ces résultats, et tout d'abord c'est 27,6% pour le chef de l'État sortant, selon les derniers résultats du ministère de l'Intérieur. 3 à 4 points de plus qu'en 2017, alors que les sondages prédisaient un coude à coude avec Marine Le Pen. C'est la bonne surprise de la soirée pour les marcheurs. Pour autant, pas question de faire preuve d'arrogance comme il y a 5 ans. Simon Le Baron était hier soir à la porte de Versailles où Emmanuel Macron avait réuni ses militants.
Cette fois, pas de soirée entre amis à la rotonde, pas de triomphe avant l'heure, mais un appel à la mobilisation.
Durant les 15 jours à venir, ne ménageons aucun effort car rien n'est fait. Soyons humbles, déterminés, allons convaincre. Chacune et chacun.
Convaincre déjà certains militants comme Monique que ce n'est pas dans la poche.
Oh, je pense que les Français sont des gens raisonnables. Donc Monsieur Macron est à peu près tranquille de passer.
C'est comme si vous aviez déjà gagné.
À peu près, oui.
Mais la plupart ne se font pas d'illusions. Cette fois, le front républicain ne suffira pas. Il faut donner des gages, prévient Alain, aux électeurs tentés par le ni Macron ni Le Pen.
Il ne faut pas faire semblant de parler d'écologie, il ne faut pas faire semblant de parler de rassemblement. Il va falloir faire des choses pour... Voilà, pour sortir de l'image, en tout cas, de gouvernement solitaire.
Redresser la barre, donc, après un début de campagne, trop droitier au goût de Julien.
Maintenant, il faut aller vers la gauche pour récupérer ces fameuses voix. Il y a eu trop d'ouverture à droite qui, à mon avis, lui ont fait un petit peu défaut.
Parler à ceux qui ont tenté le vote utile pour Jean-Luc Mélenchon tout en attaquant Marine Le Pen sur son terrain, c'est ce que veut faire Emmanuel Macron dès aujourd'hui. Premier déplacement à Denain, dans le Nord, qui a placé hier soir ses deux adversaires loin devant lui.
Emmanuel Macron distancé, en effet, dans les Hauts-de-France. Il se renforce en revanche en Bretagne, améliore son score en Auvergne-Rhône-Alpes, est en tête en Nouvelle-Aquitaine, alors que la carte électorale dessine un Rassemblement national en tête dans le Grand Est, en Provence-Alpes, Côte d'Azur et même en Occitanie. Marine Le Pen qui a lissé sa campagne entre pouvoir d'achat et chat, reléguant le cœur de son programme l'immigration au second plan. Elle réunit ses cadres aujourd'hui à Paris pour faire le point sur la stratégie pour le second tour et devrait garder sa ligne.
La lutte contre l'immigration au placard, le social en étendard. Pas question ces prochains jours de changer la stratégie d'un iota. Au contraire, alors que Jean-Luc Mélenchon termine le premier tour à la troisième place du podium, il s'agit de parler plus que jamais à la France qui ne s'en sort plus. Avec un angle d'attaque principal contre Emmanuel Macron, les retraites qui offrent au RN un slogan tout trouvé. Avec Macron, pars à 65 ans avec Marine. Tu pars avant. Autre priorité pour la candidate, rassurer. Il va falloir prouver que nous sommes des démocrates, soupire un cadre, avec un rappel prévu dès demain de toutes les propositions sur la représentativité du peuple, référendum proportionnel. Marine Le Pen qui portera ce programme seule en scène, pas question, nous dit-on, de meeting commun avec d'éventuels ralliés.
Comme le soutien d'Éric Zemmour depuis hier soir qui, avec 7%, rate sa présidentielle.
Au contraire de Jean-Luc Mélenchon.
Qui, pour sa troisième présidentielle, bute au pied du podium près de 22% des suffrages. On reparlera sans doute des 2,3% de voix au communiste Fabien Roussel qui auront manqué à l'insoumis. À défaut d'une qualification, une réussite politique donc, car la France insoumise est désormais centrale à gauche. Prise de parole hier soir de Jean-Luc Mélenchon pour un passage de témoin aux jeunes. Laurence Perron était au Cirque d'Hiver à Paris.
Jamais Jean-Luc Mélenchon n'avait été aussi clair.
Le mythe de Sisyphe, la pierre retombe en bas du ravin, alors on la remonte. Vous n'êtes ni faible, ni sans moyens. Vous êtes en état de mener cette bataille, et la suivante, autant qu'il y en aura. Regardez-moi, je n'ai jamais lâché prise, je n'ai jamais cédé, je n'ai jamais baissé le regard. Et c'est de cette façon-là que nous avons construit cette force. Alors maintenant, c'est à vous de faire.
Il confie la pierre, le fardeau d'une gauche dont il considère qu'il est désormais le seul porte-drapeau à une génération qu'il a formée, éduquée, enflammée, et pourquoi pas séduite. Peu probable qu'il brigue un nouveau mandat, mais il ne quittera pas le champ de la bataille politique pour autant. Mais la forme est encore à inventer et elle ne doit absolument pas décevoir selon lui.
L'insoumis est en tête en Ile-de-France, raz-de-marée dans les Antilles où il a la majorité absolue, mais le phénomène est surtout visible dans les villes, en tête à Toulouse, Nantes, Rennes, Carton, à Strasbourg, encore Grenoble, près de 39% des voix, ces villes dirigées par les Verts. Illustration du vote utile à gauche, dont fait les frais Yannick Jadot, 4,6% des voix. Il avait réuni ses militants hier à la Bellevilloise à Paris, Yann Gallic.
Ils ne se faisaient guère d'illusions, mais ils espéraient au moins franchir la barre symbolique des 5%. Après l'annonce des résultats, les militants écologistes n'avaient plus qu'un seul mot à la bouche pour résumer cette soirée électorale.
Déception, un petit peu de consternation. C'est vrai qu'on aurait espéré plus, surtout face à l'urgence climatique à laquelle on fait tous face. Mais on garde espoir pour la suite, pour les législatives et toutes les autres échéances à venir.
Avant, il y a quand même le second tour de la présidentielle. Vous savez ce que vous allez faire, vous ?
Oui, sans hésitation, moi je voterai contre Marine Le Pen, je mettrai un bulletin pour Emmanuel Macron.
Les écologistes vont devoir aussi gérer les difficultés financières, car en étant sous le seuil des 5%, ils ne pourront pas se faire rembourser leurs frais de campagne. Julien Bayou, le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, lance un appel aux dons.
C'est quasiment 6 millions d'euros que nous ne verrons pas remboursés. Très concrètement, dans les toutes prochaines semaines, nous devons trouver 2 millions d'euros en 5 semaines. Et c'est pour ça que nous appelons les Françaises et les Français, celles et ceux qui ont voté Yannick Jadot comme celles qui auraient voulu le faire, à soutenir l'écologie sur soutenirl'écologie.fr.
Malgré cet échec, les écologistes estiment avoir un rôle essentiel à jouer dans la recomposition de la gauche et ils comptent désormais sur les prochaines législatives pour reconquérir leur électorat.
La question de l'avenir se pose aussi pour le Parti Socialiste. Anne Hidalgo fait 3 fois moins que Benoît Hamon, 1,7% pour la socialiste, dépassée par les 2% de Nicolas Dupont-Aignan. À droite aussi, les frais de campagne ne seront pas remboursés pour Valérie Pécresse, 4,8%. Voilà qui recompose l'échiquier politique, avec une abstention hier de 25%, supérieure de 3 points à 2017. Ce sera l'une des clés du second tour le 24 avril, et peut-être encore plus qu'il y a 5 ans, l'incertitude sur le report des voix. Les sondages hier soir annoncent un second tour plus serré qu'en 2017. Jean-Luc Mélenchon appelle à ne pas donner une seule voix pour Marine Le Pen, appelle très clair aussi en faveur d'Emmanuel Macron, d'Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Fabien Roussel. Valérie Pécresse votera en conscience, dit-elle, elle aussi pour le président sortant. C'est la ligne également de l'ancien président de l'UMP, Jean-François Copé.
Pour moi, les choses sont claires, je le dis, je voterai et j'appelle massivement gouvernement à voter pour Emmanuel Macron. Mais que les choses soient claires, il faut qu'Emmanuel Macron, dans les jours qui viennent, comprenne que la partie n'est pas du tout gagnée pour lui.
Jean-François Copé hier soir sur France 2. La question fait débat toutefois au sein des Républicains. Éric Ciotti, finaliste de la primaire, refuse de donner une consigne de vote.
Je ne donnerai aucune consigne de vote. À quel titre ? Les Français sont libres. Ce que je peux vous dire ce soir, c'est que personnellement, je ne voterai pas Emmanuel Macron parce que si ce soir nous avons ce chaos dans le pays, s'il y a autant de votes contestataires de protestation, c'est qu'il a échoué en tant que président de la République. Je ne me reconnais pas dans son bilan et je ne le soutiendrai pas.
Le député LR Éric Ciotti sur le plateau de TF1, le comité stratégique du parti et les députés se réunissent aujourd'hui pour discuter de l'avenir et des législatives des 12 et 19 juin. LR détient une centaine de siège. Pas de consigne de vote non plus de la part de la candidate de Lutte ouvrière, Nathalie Arthaud, ni de Jean Lassalle, 3%, qui diffère totalement confiance à ses électeurs. Dernier résultat, celui de Philippe Poutou, 0,8%. Sur franceinter.fr, ne manquez pas les 9 infographies qui éclairent les résultats d'hier et un reportage sur ce que vont faire les électeurs de Jean-Luc Mélenchon.
Et dans le reste de l'actualité, il est 7h11, pas de répit pour les bombardements en Ukraine.
Des frappes meurtrières encore hier sur Kharkiv. Une pluie de missiles sur l'aéroport de Dnipro, des tirs aussi sur Mykolaïv, sur la route d'Odessa. Et dans les régions où l'armée russe s'est retirée, le décombre macabre des cadavres, 1222 corps retrouvés rien que dans la région de la capitale. Dans ce secteur, la plus grande ville abandonnée par les Russes, c'est Tcherniv, l'un des verrous de cette bataille de Kiev. 300 000 habitants avant la guerre, trois fois moins aujourd'hui. Et après 5 semaines de pilonnage, les habitants constatent des hôpitaux détruits, des écoles en ruine. Le reportage de nos envoyés spéciaux Thibault Lefebvre et Benjamin Thuot.
C'est la première fois depuis la fin de la bataille de Tcherniv qu'Andri, Diana et leur grand frère Maxime retournent dans leur école.
Bombe, chauffe.
J'ai entendu siffler les bombes. Dans ma rue, ça tirait à l'arme automatique. J'ai eu peur.
Et c'est Vitaly, le papa, qui a insisté pour venir.
C'est vraiment triste. Je voulais montrer à mes enfants dans quel état était leur école. Les enfants sont restés cachés dans la cave et dès qu'ils entendaient un bruit que je ne percevais pas, ils criaient « Papa, les avions arrivent !»
L'école 21 de Tcherniv a été bombardée le 3 mars. À l'intérieur ce jour-là, des civils et des volontaires engagés dans la défense territoriale ukrainienne. Ludmila habite une maison juste à côté.
C'était un acte volontaire. Ici, il n'y a ni base militaire, ni rien de stratégique, que des maisons de civils. C'était une attaque décidée contre les civils. Je ne sais pas quel est le bon terme, mais un crime de guerre, c'est trop gentil. Même les fascistes ne faisaient pas ça.
Le 3 mars, une autre école a été bombardée. 33 civils sont morts.
D'accord.
Benjamin Lefebvre à Tcherniv avec les moyens techniques de Benjamin Thuot. Thibault Lefebvre à Tcherniv, des crimes de guerre. Le chancelier autrichien qui était en Ukraine samedi les évoquera aujourd'hui devant Vladimir Poutine. La Banque mondiale prévoit que l'économie de l'Ukraine va se contracter de 45% cette année. Un dernier mot de football avant de revenir à la politique. L'Olympique de Marseille reprend à Rennes la 2e place du classement. Victoire 2-0 contre Montpellier. Dernier match de la 31e journée de Ligue 1.
Merci Anaïs Feuga. Dans un instant, le premier invité de cette matinale spécial aujourd'hui consacré donc aux résultats de ce premier tour de l'élection présidentielle. Notre invité, le vice-président de Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, Nicolas Bay.